Le journal Olivier Zano, bonsoir.
Bonsoir, Tornos et Starag, le mariage est désormais officiel. Les actionnaires de Tornos ont validé ce jeudi la fusion entre les deux géants de la machine-outil. L'union fait la force, mais elle ne garantira pas d'échapper aux remous, vous l'entendrez. La formation des sapeurs-pompiers de la protection civile doit être maintenue dans les régions à Tramelan pour le Jura bernois. C'est l'objet d'une motion acceptée cet après-midi au Grand Conseil. Explication dans quelques instants. Le projet PV Bench va bon train à Mont-Soleil. Il vise à comparer différents panneaux solaires de Suisse et d'ailleurs. Un questionnaire a été remis aux fabricants pour obtenir des informations avec une transparence pas toujours optimale. Le ciel restera bouché cette nuit avec des pluies fréquentes, mais une limite des flocons maintenue assez haut, entre 1800 et 2000 mètres. Elle devrait redescendre vers 1000 mètres en fin de nuit. Températures fraîches, elles resteront bloquées entre 2 et 5 degrés demain avec un temps toujours grisâtre. L'union entre Tornos et Starag est officialisée. Réunis en assemblée extraordinaire, les actionnaires du fabricant de machines-outils Tornos ont validé ce jeudi à Moutiers la fusion avec le groupe saint-gallois Starag. Plus d'une majorité des deux tiers des voix représentées s'est prononcée en faveur de cette union. Dans un contexte de ralentissement conjoncturel mondial et de pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie, cette fusion devrait permettre à Tornos d'envisager l'avenir plus sereinement, même si ça ne garantit pas pour autant à Tornos d'être à l'abri des tempêtes, comme le rappelle François Frotté, président du conseil d'administration.
Écoutez, je crois que ce n'est pas cette fusion qui va être une sécurité absolue pour les entreprises. Chaque entreprise devra continuer à travailler, être compétitive sur les marchés. Donc la fusion facilite beaucoup de choses, donc contribue à améliorer la possibilité de faire des bonnes affaires et de pérenniser l'avenir de cette entreprise. Mais ce n'est pas la fusion en tant que telle qui va modifier l'avenir de Tornos.
Le nouveau groupe baptisé Starag Tornos Group SA verra le jour le 7 décembre prochain. L'entité compte désormais 2000 collaborateurs, dont 650 se trouvent dans les trois usines en Suisse. Pierre Coulry va intégrer le conseil municipal de Moutiers à partir du 1er janvier prochain. Le socialiste autonome a accepté de succéder au démissionnaire Karim Bortoloussi. L'exécutif prévotois devrait valider cette arrivée lors de sa prochaine séance, prévue mardi. Actuel conseiller de ville PSA, Pierre Coulry était le deuxième des viennent ensuite de son parti après les dernières élections municipales. La première, Mylène Jolidon, n'a pas souhaité prendre le fauteuil vacant pour des raisons professionnelles. Préserver l'infrastructure décentralisée pour la formation des sapeurs-pompiers et de la protection civile. C'est l'intitulé d'une motion déposée au Grand Conseil et soutenue par plusieurs élus, dont le PEV de Reconvilliers, Tom Gerber. Le texte a chargé le Conseil exécutif de maintenir les sites de formation dans les régions. Écoutez les précisions de Séverine Boé.
Le gouvernement bernois a tout d'abord tenu à rappeler dans sa réponse que ce sont les communes qui sont responsables et qu'il ne peut dès lors pas préserver l'infrastructure de formation décentralisée pour la protection civile puisqu'il n'en a pas la responsabilité et qu'il n'en est pas propriétaire. Actuellement, l'agence immobilière Berne et l'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires ont lancé un projet visant à évaluer l'infrastructure de formation et notamment de proposer une solution centralisée. L'élu évangélique de Reconvilliers, Tom Gerber.
La maladie de croire que la seule option possible pour une réorganisation est toujours une centralisation, et cela en général dans le Mittelland ou à proximité de Berne. La fraction évangélique soutient la volonté des missionnaires de garder autant que possible les formations dont il est question dans les régions. Elle ne conteste pas cependant que pour certaines formations techniques pour lesquelles une infrastructure ou des installations onéreuses doivent pouvoir être mises à disposition, que ceci ne peut être le cas dans toutes les régions.
Pour le député maire socialiste de Tramelan, Hervé Gulotti, le projet de l'AIB et de l'OSSM est louable si on ne le considère que sur le plan financier et de l'assainissement des infrastructures actuelles.
L'idée sous-jacente est constructive, mais vous savez, monsieur le conseiller d'État, avec quelle prudence les habitantes et les habitants de ce pays accueillent les réformes qui aspirent à davantage de centralisation. Il faut vraiment faire preuve de tact dans ce domaine et il me semble que la lecture de la réponse du gouvernement laisse le lecteur avec davantage de questions que de réponses quant aux compétences qui resteraient au centre de compétences régionaux et celles déléguées à cette solution centralisée. car le gouvernement promet effectivement de maintenir des centres régionaux tout en restant vague sur ce qu'il s'y passera.
Dans sa réponse, le gouvernement précise encore que le conseil exécutif et l'AIB n'ont pas l'intention de centraliser l'ensemble de la formation et du perfectionnement des sapeurs-pompiers et de la protection civile. Dans la mesure où cela est possible, judicieux et efficace, les formations et les perfectionnements doivent continuer à être organisés de manière décentralisée dans les communes et les régions.
Les députés bernois ont accepté aujourd'hui de suivre l'avis du Conseil exécutif et ont accepté la motion sous la forme du postulat par 114 oui, 30 non et 5 abstentions. Obtenir plus de transparence en matière de photovoltaïque, c'est l'un des objectifs du projet pilote PV Bench. Lancé en mai dernier sur le Mont-Soleil, il a pour objectif de comparer différents panneaux solaires. Ils viennent de Suisse, d'Allemagne et de Chine. Après 6 mois de tests, les premiers résultats de recherche sont publiés aujourd'hui. Un questionnaire a été soumis aux 5 fabricants pour en savoir davantage sur l'origine des matériaux qu'ils utilisent ou encore sur le respect des standards sociaux dans le processus de fabrication. Mais tous n'ont pas répondu. Les détails de ce questionnaire avec Moussia Devadville, directrice de l'espace découverte énergie, l'un des porteurs du projet.
Quelle source d'énergie ils utilisaient pour produire leurs panneaux, où ils se fournissaient dans les matières premières. Et là, on a les producteurs suisses et européens qui nous ont répondu. Un producteur chinois a répondu que c'était confidentiel, ces données, et le cinquième n'a pas du tout répondu.
Qu'est-ce que ça traduit, ce fait que les producteurs chinois n'ont pas voulu répondre ou alors ont répondu que c'était confidentiel? Est-ce que ça lui donne d'autres perspectives?
Non, ça ne remet pas du tout le projet en cause. Ça nous prouve plutôt que, disons, on peut avoir confiance dans nos producteurs suisses et européens. Et puis peut-être que si on nous répond que c'est confidentiel, ils ont quelque chose à cacher. Ou bien alors ils nous considèrent comme trop petits ou pas assez intéressants pour leur marché. Ça leur paraît peu pertinent de passer une demi-heure à répondre à un questionnaire pour des petits Suisses qui font un test peut-être utopique à leurs yeux quelque part à Mont-Soleil. Mais ça nous conforte dans l'idée de l'importance d'avoir une vue globale sur les panneaux photovoltaïques. Et puis nous, ça nous informe que c'est quand même très compliqué d'avoir des informations sur ce qui se passe en Chine. On n'a peut-être pas la même mentalité d'approche de travail et puis de la transparence de la formation.
Moussia Devadville au téléphone de Violette Ferreira. Pour l'instant, le projet pilote doit s'effectuer sur 2 ans. Moussia Devadville aimerait un financement sur du long terme, 10 ans ou plus, pour savoir comment les panneaux réagissent et se dégradent. Un calendrier de l'Avent solidaire, c'est ce que vous proposera RJB dès ce vendredi 1er décembre jusqu'au 24, veille de Noël. Chaque jour, une association, une institution ou un privé présenteront leur action en faveur de la population dans un esprit de partage à l'approche des fêtes de fin d'année. Des sujets à retrouver tous les jours dans nos éditions de 12h15 et sur rjb.ch. Et dès demain aussi, les cantons pourront réguler les meutes de loups à titre préventif. L'Office fédéral de l'environnement a approuvé la plupart des demandes cantonales en ce sens. Une décision qui marque un tournant majeur dans la gestion du carnivore en Suisse. Pour Ronald Sommer, secrétaire général de l'Association suisse pour la protection des territoires contre les grands prédateurs, l'efficacité de cette mesure ne fait aucun doute. Et comme les tirs devront répondre à des conditions clairement définies, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une potentielle hécatombe de loups. Ronald Sommer.
On ne va pas tirer sur n'importe quoi. Il y a eu 13 demandes qui ont été faites pour abattre des meutes ou bien éliminer des meutes. 12 ont été acceptées. Et puis, on le sait exactement, ce ne sera pas si facile que ça pour tirer ces loups. Ça aura une efficacité, ça va diminuer le nombre de loups, mais on ne va jamais arriver à tirer tous ces loups qui sont prévus maintenant, ou bien toutes les demandes qui ont été faites. Les quotas ne vont jamais être atteints. Et après, il faut aussi dire... Voilà, c'est un peu un essai, quoi. On verra les fruits que ça porte à l'avenir.
De son côté, Yves Bongard, secrétaire de l'association Avenir Loup Lynx Jura, met en garde contre une mesure jugée inefficace et contre-productive qui pourrait encore aggraver la situation actuelle.
On n'arrive jamais à éradiquer la meute en place, ils ne s'alignent pas comme des petits soldats et puis on prépare les fusils. Non, il y aura des dispersions. Et on le voit aussi dans le Jura bernois, mais sur Neuchâtel également, c'est toujours principalement des loups en dispersion qui s'attaquent au bétail parce que justement ils vont sur les proies les plus faciles si elles ne sont pas protégées. Donc on va créer plus de dispersion. Il faut se rendre compte que dans les Alpes, il y a de plus en plus de loups et de moins en moins d'attaques par loups. Et en fait, aujourd'hui, ben, on va créer une catastrophe qui va faire qu'il y aura de plus en plus d'attaques.
Et rappelons qu'actuellement, la Suisse compte plus de 30 meutes. Sur les 13 demandes de tirs de meutes complètes que les cantons ont fait parvenir à l'Office fédéral de l'environnement, 12 ont été acceptées par l'OFEV. Les tirs ne seront autorisés qu'entre le 1er décembre et le 31 janvier. En Valais, à la suite des révélations d'abus sexuels en milieu ecclésial, le département de l'économie et de la formation veut analyser la collaboration entre l'école et les églises reconnues dans l'enseignement obligatoire et du secondaire 2. Il a décidé de revoir la convention qui lie les entités. Il est essentiel de poser des lignes fortes, claires, sécurisées et transparentes afin de garantir un cadre de collaboration adapté au contexte actuel. C'est ce qu'a relevé le chef de service de l'enseignement, Jean-Philippe Lonfa. 1983-2023, il y a 40 ans, le virus du VIH était découvert. Depuis, la lutte contre le sida se poursuit. 39 millions de personnes dans le monde vivent encore avec le virus aujourd'hui. Le cas du jeune Genevois Romuald est porteur d'espoir. Il a été diagnostiqué séropositif il y a 30 ans. Il contracte une leucémie en 2018 et suite à une greffe de moelle osseuse, il est aujourd'hui la sixième personne au monde en rémission du VIH. Il revient sur son parcours.
La leucémie a commencé en 2018 et ensuite donc la recherche d'un donneur de greffe de moelle osseuse qu'ils ont recherché dans une base de données mondiale et ils ont trouvé un donneur qu'on appelle anonyme. Moi je savais que c'était un jeune homme de 37 ans, un Allemand. Certes il y a eu une leucémie mais en échange, je dirais même en cadeau de parfois ses souffrances, eh ben, il y a eu l'effacement, la rémission de ce VIH et l'arrêt de la trithérapie. On a dépassé les 2 ans depuis le 16 novembre, plus de traitement, donc plus de trithérapie. Ce qui est fabuleux parce que à la base, quand on est atteint du VIH, c'est un traitement que l'on doit prendre à vie. Car si le traitement est arrêté, le virus se multiplie et la maladie peut s'activer.
Des propos recueillis par Laurie Selly de Radiolac. Les femmes afghanes ne sont pas plus nombreuses à demander l'asile en Suisse. Le secrétariat d'État aux migrations a indiqué aujourd'hui que son changement de pratique n'avait pas d'effet sur les nouvelles demandes. Le SEM a décidé au mois de juillet de tenir compte de la persécution des femmes afghanes dans leur pays d'origine. Il peut désormais leur accorder le statut de réfugiés. Les quelques 3000 afghanes qui n'ont pas obtenu l'asile mais qui bénéficient d'une admission provisoire peuvent donc déposer une nouvelle demande et obtenir plus facilement le regroupement familial. Mais ce changement ne rend pas la Suisse plus attractive, estime Claudio Martelli, directeur adjoint du secrétariat d'État aux migrations.
C'est une pratique qui est alignée à la pratique que les autres pays européens ont aussi prise. C'est presque tous les pays européens qui ont la même pratique envers les femmes afghanes que nous. Et nous ne pensons pas que pour cette raison, la Suisse est particulièrement intéressante pour les femmes afghanes.
Est-ce que vous pensez que les femmes afghanes qui vont obtenir le statut de réfugiées, il y en a beaucoup qui veulent faire venir leur famille d'Afghanistan ?
Non, là aussi, la plupart d'eux, ce ne sont pas des femmes seules, ce sont des femmes qui sont déjà ici avec leur famille. Il faut aussi mentionner que c'est très difficile de quitter l'Afghanistan. C'est un nombre pas vraiment important des femmes seules qui quittent l'Afghanistan et qui viennent en Europe.
Des propos recueillis par Marie Vuillemier. Le SEM précise que le statut de réfugié n'est pas accordé de manière automatique. Chaque demande de femme afghane est examinée individuellement. Et à propos de migration, plus d'un millier d'exilés ont été évacués aujourd'hui de lieux de vie autour de Calais et Dunkerque. Ils y campent dans des conditions exécrables avec l'espoir de gagner le Royaume-Uni. L'action d'évacuation doit être perçue comme une mise à l'abri selon les préfectures. Elles sont dénoncées par plusieurs associations qui parlent d'expulsion forcée. Et puis enfin, la guerre à Gaza s'est invitée aujourd'hui aux négociations mondiales pour le climat à Dubaï. Des militants ont appelé un cessez-le-feu, tandis que le président israélien devrait plaider pour la libération des otages détenus par le Hamas. La 28e conférence de l'ONU pour le climat, la COP28, s'est ouverte ce jour aux Émirats arabes unis, avec une minute de silence à laquelle a appelé le ministre égyptien des Affaires étrangères pour tous les civils tués dans le conflit à Gaza. Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée.